Bonjour à tous. Il faut que je me remette un peu de mes émotions. Dans la louange, j'étais tout chose là, donc il faut que je me remette un petit peu. J'ai presque oublié que je prêchais. Voilà. Eh bien, nous voilà en ce dimanche pour un message que j'ai intitulé "Viva la vida". Alors, j'espère que ça vous a laissé interrogatif. C'était le but, en tout cas. Sachez-le, que tout haut. Depuis que vous avez reçu le Frat News, là, vous vous dites, mais de quoi il va bien nous parler? Alors, ça fait une semaine que nous avons célébré la Pentecôte, cet acte qui nous est relaté dans les Actes, au chapitre 2. Cette venue de l'Esprit parmi nous, parmi les premiers apôtres, ce que je pourrais appeler la pendaison de crémaillère du Saint-Esprit, à savoir... L'Esprit vient résider chez les croyants, et donc on célèbre cette venue chez les croyants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir bien apporter à la Frat dimanche prochain? Ça fait depuis le début de la semaine que je suis, disons, mitigé, je passe par différentes choses dans mon quotidien. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter après, une semaine après la Pentecôte? Eh bien, ça va être vive la vie. Pourquoi? Eh bien, parce que... La Pentecôte est là, on peut le lire, hein, vous lisez dans Acte 2. Et dimanche dernier, Nathalie a apporté un message à Morges, à l'Oasis, sur cette venue de l'Esprit, mais aussi ce que ça implique. Quand l'Esprit vient, alors ça apporte certes les langues de feu, on connaît tous ces choses, mais des choses bien supérieures, à savoir ça bannit la crainte. On se rend compte que les apôtres sont dans la crainte, etc. Et puis quand l'Esprit vient, la crainte disparaît. Cependant, je me suis dit, tiens, je vais relire quand même le passage et lire un peu ce qui vient après. En fait, les apôtres, de suite après la Pentecôte, la crainte revient. Et moi, dans mon quotidien, dans mon doctorat, là, lundi, quand je suis revenu dans mon bureau, il y a des miracles qui viennent après la suite des actes. Mais moi, je n'ai pas vécu quelque chose de particulier. Dans le sens où je n'ai pas vécu des miracles, mon quotidien a repris son cours. Et voilà, la vie a repris son cours, rien d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas vous... Mais j'étais un peu partagé, je me suis dit, Seigneur, mais est-ce que c'est ça au final la vie? Est-ce que ton esprit vient et puis on en reste là, et puis la vie suit son cours? Et j'ai été, en fin de semaine, jusqu'à vendredi, je n'avais pas de texte, et vendredi, j'étais vraiment embêté, hein, je vous le dis, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça, j'ai entendu une musique à la radio, et j'aimerais vous la laisser. Alors c'est pas celle que les jeunes pensent forcément, parce que je pense que les jeunes, vous ne la connaissez pas. Écoutez ça. Ceux qui reconnaissent, hein. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to to everything, turn, 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 there is a season. Est-ce que vous avez reconnu, bon, le groupe, vous l'avez maintenant, hein, mais de quel passage il peut s'agir? Les paroles, de quoi, ceux qui ont un petit peu d'anglais, de quoi ça... Un temps pour tout, un temps pour vivre, un temps pour... etc. Et vendredi, dans la voiture, j'ai ce texte-là qui me vient, alors qu'après ma semaine plutôt compliquée, très chargée, j'ai ça qui me vient. Puis je ne fais pas trop attention. Le soir, en me couchant, j'ai un titre de livre qui me revient, qui dit « Pour apprendre la vie telle qu'elle est », qui est un commentaire de l'Ecclésiaste. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose pour moi, en tout cas. Et je n'ai pas d'autre chose à vous donner que ce que j'ai reçu, moi, en réalité. Parce que je me suis dit, ça peut faire du bien à la communauté, après la Pentecôte, de se dire, au final, la vie, elle change, mais pas tant que ça. On revient très vite à nos doutes, on revient très vite à la vie telle qu'elle est, j'ai envie de le dire, et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin, avec la lecture de ce texte en Ecclésiaste 3. Nous lirons des versets 1 à 15. Vous pourrez facilement lire la suite et la suite du livre de l'Ecclésiaste qui est, pour le moins, selon moi, une perle de réalisme dans ma vie de tous les jours et qui me rejoint d'une manière extraordinaire. Ecclésiaste 3, versets 1 à 15, et vous pourrez lire la suite du chapitre, on n'aura pas le temps de la commenter ensemble, mais à la maison. Il y a un temps pour tout, ou pourrait-on dire il y a un moment pour tout, c'est un temps défini, disons. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne, ou pourrait-on dire belle, en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être dans leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter ni rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui a déjà été et qui sera déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Alors, j'aimerais vous proposer de regarder le texte de près, qui, selon moi, tout d'abord, une des premières caractéristiques, il rappelle, quelque part, la Genèse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est pas un nouveau récit de la création, loin de là, mais on s'interroge sur les choses mêmes essentielles de la vie. Alors, il y a, dans la première partie du texte que nous venons de lire, une première partie qu'on appelle souvent la table des temps, avec les fameux « un temps pour ceci, un temps pour cela » qu'on a lu, assez long, hein, où on prend le temps, justement, de les lire. Quelque chose qui, aussi, nous rejoint dans tous les aspects de notre vie. Et quand on calcule, il y a 14 paires. 14 paires d'affirmations, basées sur « un temps pour ceci et un temps pour cela ». Bon, vous remarquerez les 2 fois 7, hein, on ne veut pas être... Ils ont regardé les chiffres là où il n'y en a pas, mais là, il me semble que 2 fois 7, 7, hein, 7 jours de la création, 2 fois 7 semblent se dégager. Et on a ce « un temps pour ceci, un temps pour cela », comme là, je dis, la pulsation d'un métronome qui nous indique le bon tempo dans lequel nous devons jouer notre vie. Ce serait pas possible d'avoir l'écran là ? Ce serait chouette. Merci. Alors, quand on regarde un peu, disons de près, les différentes activités dont il est question dans ce texte, elles sont typiques de la vie de l'homme et de la femme, on pourrait dire. Il est question de choses existentielles, oui, des activités, de sa vie affective et même de l'usage de sa parole. Tous les aspects de la vie semblent abordés, ou presque. Alors, dans certaines paires, ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'aspect positif qui vient en premier. On a enfanté, planté, embrassé, gardé, aimé. C'est l'aspect positif qui vient tout d'abord dans la première, dans certaines paires. Des fois, c'est l'élément négatif. On a tué, démolir, pleurer, se lamenter, déchirer ou encore la guerre. Alors, bien des gens ont essayé de dégager une structure de cet ensemble. Bien des gens ont essayé de voir s'il n'y avait pas une structure cohérente derrière ces paires. Au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune logique dans ces enchaînements. Alors ça, on n'aime pas trop, hein, parce que nous, avec nos esprits qui aiment bien ranger, on aime bien voir, là, voilà, ça commence là, ensuite on passe là, rien de tout cela. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Je pense que l'Ecclésiaste veut nous dire qu'il n'y a aucune logique dans les enchaînements de notre vie. Le bien, aujourd'hui, comme le mal, viennent tour à tour, sans même qu'on puisse discerner, distinguer ce qui pourrait advenir du lendemain. C'est l'aspect, disons, aléatoire, ou disons, les choses qui nous viennent telles qu'elles sont. On ne peut pas les anticiper. Eh bien, c'est, il me semble, ce que l'Ecclésiaste veut nous dire par ces enchaînements. Alors, maintenant, regardons de près quelques paires. J'entends quelques paires, hein, quelques doublons, comme ça. Avec tout d'abord, au verset 2, l'homme est appelé à planter et à arracher. Alors, je ne vois pas nos amis, je connais quelques agriculteurs de l'Église, mais je pense que c'est une activité à laquelle vous vous donnez plus que nous, plus que moi avec mes petites jardinières sur mon balcon, hein, c'est très rare. Mais les agriculteurs pourraient facilement dire qu'il est rare, ou disons certaines choses, on ne les plante pas une fois pour toutes. Il y a des semences, hein, il faut semer, puis arracher, etc. Il y a des choses, alors il y a des arbres, on les sème, on les plante une fois et on est tranquille. D'autres choses, il faut planter, arracher. On ne plante pas une fois pour toutes pour certaines choses. Ce n'est pas aussi facile que de semer une fois et d'attendre pour toute la vie de récolter le fruit. Même certaines choses, comme ici, on est dans un pays viticole, donc on le sait, des fois on plante de la vigne, mais à un moment donné, il faut, les plants ne sont plus assez productifs. Donc on arrache et on replante. Qu'est-ce qui nous est dit dans cette paire ? Eh bien, c'est le manque de permanence de nos activités. Le matin, on se lève, on défait son lit. Le soir, on défait son lit, on se met dedans. Et le matin, on refait son lit. Si tout se passe bien, demain, vous faites la même chose. Le soir, vous entrez dans votre lit, vous défaites votre lit. Le matin, on refait son lit. On emmène les enfants à l'école du lundi au vendredi. On ramène les enfants à l'école du lundi au vendredi. Il y a un côté routinier dans la vie. Il y a un côté des choses où l'on fait les choses par habitude. On les fait plusieurs fois. Eh bien, c'est comme ça. Et l'Ecclésiaste intègre cette particularité-là. Il y a des choses que l'on ne fait pas une fois pour toutes et que l'on est amené à répéter plusieurs fois. Abattre, un temps pour abattre et un temps pour soigner, nous dit le texte. Alors ça, c'est assez énigmatique. De quoi est-il question dans ce verset 3, un temps pour abattre et un temps pour soigner? Alors, certains commentateurs vont mettre ce passage-là avec la paire, en relation avec la paire qui est au-dessus, et se demander s'il ne serait pas question des animaux. Mais voilà, il y en a qui font un peu la mouille, qui disent non, c'est pas possible, non. On se rend compte que c'est un petit peu tiré par les cheveux que de voir les choses comme ça, et on se rend compte au final que c'est les hommes et les femmes qui sont au centre de cette action. Alors, très polémique, hein. Un temps pour abattre et un temps pour soigner, y a-t-il un temps... Vous voyez, l'Ecclésiaste a des préoccupations éthiques et d'extrême actualité, hein, si on regarde. Le temps revient. Un temps pour abattre et un temps pour soigner, y a-t-il un temps pour arrêter les soins ? Y a-t-il un temps pour abattre ? Je ne prononcerai pas sur cette question, mais en tout cas, l'Ecclésiaste vient nous dire, très actuel là encore une fois, dans cette paire-là. Je vais m'arrêter sur des choses où là, j'ai un petit mot à dire. Je ne suis pas éthicien, donc je ne pourrais pas vraiment m'attarder sur la paire que nous venons de dire. Mais un temps pour pleurer, un temps pour rire, ça, je le fais. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, le dernier un petit peu moins. Mais en tout cas, là encore, qu'est-ce qui nous est dit ? Eh bien, c'est le paradoxe de l'existence qui est souligné ici. Il y a des moments où l'on pleure, il y a des moments difficiles. Il y a des moments pour rire. Il y a des moments pour se lamenter, des moments pour danser. Une chose est son contraire dans notre existence. Là encore, c'est l'aspect, disons, très paradoxal de l'existence qui est mis en avant, avec des moments de joie, des moments de tristesse, et qui, je l'ai déjà dit, hein, une prédication, avec le texte de Lamentation, je pense que nous pouvons vivre tous ces domaines en Église, en se soutenant et en pleurant avec ceux qui pleurent et en réussissant à rire avec ceux qui rient. Là, c'est, je pense, un défi et une des richesses de l'Église que d'arriver à vivre cela ensemble. un temps pour se taire et un temps pour parler. Je me tais ? Non, j'avais essayé de parler quand même. Très difficile. Hein. Un temps pour se taire, un temps pour parler. On remarquera qu'il y a quand même se taire avant, même s'il n'y a pas trop de logique. Moi, j'ai bien aimé de voir se taire tout d'abord, un temps pour se taire. Hein. Je trouve qu'il est très difficile d'écouter. Un temps pour se taire, pour réussir à écouter. Je ne sais pas, des fois, vous dialoguez avec des gens, hein, on dialogue pas, quoi. Hein, disons, on n'arrive pas à en placer une, etc. Ça, c'est quand même embêtant, je trouve. On parle avec des gens, on n'a pas le temps d'en placer une. Il est difficile de se taire. Très difficile de se taire. Et je pense que, là encore une fois, en Église, on a à apprendre. Je pense que dans bien des situations qu'on expose, hein, dans bien des situations qu'on expose à des frères et des sœurs, il y a des temps pour se taire et des temps pour parler. Des fois, on essaye trop vite, on se précipite. Il y a quelqu'un qui nous expose quelque chose et on a des conseils, on a des phrases, avec des grandes généralités, etc. Et je pense que là encore, on a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et en même temps, un temps pour parler, dans certaines occasions, il est difficile de parler, d'avoir le courage de s'exprimer et d'avoir le courage de dire les choses qu'en noir c'est noir et qu'en blanc c'est blanc. Donc un équilibre à trouver entre dans une situation dans laquelle on est en dialogue avec quelqu'un, des phrases du « c'est mais tu sais, le Seigneur le sait, ta situation ». Certes, c'est vrai, mais quand je souffre, c'est pas évident d'entendre ça toujours, ce genre de choses. Donc se placer entre « oui, mais le Seigneur le sait », et puis se taire, et puis peut-être manquer de courage pour dire les choses. Là encore, l'Ecclésiaste expose les choses, et il semble qu'il nous esquisse une ligne qui se situe entre deux paires, mais sans trop nous dire où, parce que c'est à nous de choisir et à nous d'exercer notre jugement là. Oui, la vie est complexe, on aimerait des fois des choses un peu plus simples, mais non. La vie est complexe et ça se situe sur vraiment un fil pour trouver le bon comportement. Finissons cette table des temps par un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. J'ai pris les plus difficiles, hein, histoire d'avoir quelque chose à dire et de pouvoir vous amener un peu de l'avant avec ce texte-là. Est-ce qu'on n'est pas appelé à aimer, à œuvrer pour la paix en toutes circonstances ? Très bizarre ce verset, il pose problème, on n'aime pas trop passer dessus. Alors j'ai regardé quand même un peu, je me suis attardé à regarder le sens de ce verbe « haïr » là. Qu'est-ce qu'il signifie ? Comment est-il utilisé dans l'Ancien Testament ? Eh bien, il n'a pas autant une notion négative qu'on l'entend en français. Souvent, Dieu en est le sujet. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est haïté, hein. J'ai un accent hein, du sud-ouest de la France, donc H-A-I-T, hein, disons, c'est lui qui a en horreur. C'est souvent Dieu qui en est le sujet. En fait, haïr, là, c'est cette indignation contre le mal. On pourrait le résumer ainsi. Un temps pour haïr, un temps pour se révolter du mal qui nous entoure. Un temps pour trouver que ce qui se passe dans le monde n'est pas juste et demander au Seigneur qu'il revienne. Un temps pour s'indigner contre le mal. Alors, vous remarquerez, un temps de guerre et un temps de paix. On peut comprendre cette deuxième paire-là de deux manières. Vous remarquerez, il est question un temps de guerre et un temps de paix, pas un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Certains disent que, et je me demande si on n'aurait pas une petite subtilité là, dans le texte où normalement il y a beaucoup d'actions, mais là le chrétien ou le croyant se place là, dans un temps de guerre ou un temps de paix. Le temps est là, et il y a des temps de guerre et des temps de paix. Certains comprennent que ça ne veut pas dire qu'il faille faire la guerre ou faire la paix absolument. Donc, pas forcément le faire. Un temps de guerre, un temps de paix, ça s'impose à nous comme ça. Une deuxième manière de le voir, c'est que, ben oui, des fois, nous sommes appelés à faire la guerre. Et dans certains pays, certains chrétiens sont appelés à faire la guerre. Certains chrétiens vivent des moments de guerre, des moments difficiles. Et nous sommes parfois appelés à agir dans ce que j'appelle la perspective d'un moindre mal. Par moments, Question très compliquée. En tant que chrétien, peut-on faire la guerre, etc. C'est compliqué, mais on réfléchit avec des lunettes et dans une perspective qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'Ancien Testament tout d'abord, mais aussi que la plupart des pays de notre monde. Il est question de la nation, il est question de la paix, etc. Donc très difficile à se situer là encore. Voilà, donc, après un premier tour d'horizon de cette table des temps, qu'est-ce qu'on peut dire ? Mais tout d'abord que le temps est appréhendé comme un maître. Il nous donne tantôt du bon, tantôt du mauvais. Et que nous sommes parfois impuissants face à cela. Le bon arrive, le mauvais arrive, et il se présente à nous. Des situations dramatiques se présentent à nous. Et que nous sommes impuissants. Nous avons le Seigneur, mais que nous sommes dans un monde où, on l'a abordé dans la thématique du royaume de Dieu, dans une tension entre le déjà et le pas encore. Nous avons déjà les bénéfices du royaume de Dieu, mais pour autant le mal est là, et le mal sévit. Satan est attaché, mais comme certains disent, il a la laisse longue. Le mal agit grandement. Ensuite, c'est que nous devons agir tout en étant conscients de la portée limitée de nos actions. Nous sommes que très peu de choses sur cette terre, nous rappelle l'Ecclésiaste. Alors, maintenant, on peut se poser quelques questions. Quelle attitude adopter face à ces différents temps qui se présentent devant nous ? Au final, quel est l'avantage à vivre la vie que nous vivons ? Si on s'arrêtait là avec cette table des temps, bon, c'est pas rempli d'espérance. Mais quel est l'avantage ? Est-il nul ? Alors, certains le pensent, mais moi je pense que non. Je ne pense pas que l'avantage est nul si l'on compare la table des temps. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Bon, mes amis agriculteurs, là, je compte sur vous. Un temps pour planter, un temps pour arracher. Est-ce que l'avantage est nul à faire ça ? Ben non. Pourquoi ? Il y a une récolte. On a planté, on a arraché, mais l'avantage n'est pas nul puisqu'il y a une récolte. Le soir, vous êtes très content d'avoir un lit qui est très bien fait. L'avantage n'est pas nul. L'aspect répétitif ne sous-entend pas que l'avantage est nul et que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je peux profiter du fruit tout en connaissant les limites de ce que je fais. Et tout ça pourquoi ? Pourquoi la vie est si limitée ? Pourquoi l'aspect répétitif ? Pourquoi, au final, trouver qu'un certain plaisir dans la vie, tel que la table des temps la laisse ? Pourquoi ? Eh bien, je le pense, tout ça pour que nous n'oublions pas la raison même de notre existence et celui qui nous donne la vie, à savoir le Seigneur. Nous aurions un plein plaisir, là, dans nos activités sans frustration. Nous n'aurions pas de temps pour pleurer, nous n'aurions pas de temps pour nous lamenter. Vers qui on se tournerait ? Tout ça est là pour que nous puissions nous tourner vers le Seigneur. Et d'ailleurs, dès le verset 10, il est question que c'est le Seigneur qui assigne aux hommes ses activités. Le Seigneur en est l'origine de ces activités-là. Il n'est pas question de renoncer à nos activités, non, 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 mais d'y trouver un certain plaisir. Et c'est là qu'on avance. Au fur et à mesure de notre texte, il est question d'y trouver les plaisirs. Et nous avons l'assurance d'une chose, et ça je me le rappelle dans mon quotidien et surtout cette semaine, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Quel verset incroyable que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors ça veut dire beaucoup de choses, ce verset. Tout d'abord, c'est qu'il ne les fait pas simplement bonnes. Ça vous fait penser à quoi ce mot bon là ? Genèse. Et il vit que cela était bon. Mais là, il était question de bon avant, qui était associé au verset 12 et 13, aux activités que l'homme faisait, au bien qu'il pouvait en tirer. Donc, tout cela, c'était bon. Donc, Dieu ne fait pas les choses simplement bonnes. Hein. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de créer l'homme, il vit que cela était très bon. Effectivement, très bon. Et bien là, il fait toutes choses belles en son temps. Et puis, bon, faites-moi confiance, j'ai été regarder si vraiment le mot, c'est belle. Eh bien, c'est belle, hein, qui est employé. Il les fait belles. C'est comme si le bon ne suffisait pas, mais qu'il y avait l'esthétique qui s'ajoutait. Alors, je trouve que c'est un petit détail, moi, qui me fait frissonner, là, quand je regarde mon texte de près. Il fait toutes choses belles. Pas simplement bonnes, il les fait belles pour nous. Là, ils sont contents, hein, ceux qui travaillent dans le design, le graphisme, je les vois qui, qui trouvent une raison même à leur travail, hein, comme extension du bras de Dieu, faisant les choses belles à leur tour. Il fait toutes choses belles, pas simplement bonnes. Comme je l'ai dit, le bon était associé au plaisir que pouvait trouver l'homme. Eh bien non, Dieu va plus loin, il les fait belles, un petit peu comme ce très bon de la Genèse. Il fait toutes choses belles, oui, mais en son temps. Eh oui. Dans l'instant, hein, quand on souffre, quand on pleure, quand on se lamente, il faut se rappeler que Dieu fait toutes choses belles, oui, mais en son temps. Alors là, c'est tout un univers qui nous dépasse. Hein, il est dit, le verset 11 continue en affirmant que Dieu, il fait toutes choses belles, voilà, en son temps, mais ça a des limites. Nous sommes enfermés dans notre existence, enfermés dans la vision des choses que nous avons. Mais Dieu permet qu'il fait toutes choses belles en son temps. Et moi, ce que j'aime bien faire des fois, on l'a vu avec un camp de la Frée, là, le camp Passion, c'est de regarder le plan général de Dieu à travers la Bible. Pour regarder la manière dont lui construit le temps, la manière dont il déploie son œuvre, la manière dont il agit au fur et à mesure du temps. Moi, c'est une source d'encouragement pour moi de voir le plan de Dieu, sa visée, son but, et de voir que moi, je suis un petit point là, dans un grand plan général qui est un plan d'amour que Dieu a pour le monde. Et j'aime bien re-regarder, me laisser envahir par le texte et de voir que Dieu a un plan et une finalité, un but pour l'humanité tout entière. L'histoire a un sens. Nous sommes un petit point dans cette histoire, mais l'histoire a un sens général. Alors le verset 11 continue en affirmant que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous manquons véritablement du recul. Nous n'arrivons pas à saisir tout ce que Dieu fait, toute son œuvre du commencement et ce jusqu'à la fin. Nous serons dans la Jérusalem céleste ou dans la Nouvelle Jérusalem, avec où il n'y aura plus de cris, plus de pleurs, plus de tristesse. Et il est bien de se rappeler que Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans ma perspective, mais dans la perspective de l'humanité. Ce même quand je souffre, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors l'Ecclésiaste propose de se réjouir, du coup, puisque nous avons cette affirmation que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Réjouissons-nous, parce que nous savons qu'il a un plan pour l'humanité, pour nous, mais aussi pour l'humanité tout entière. Et c'est ainsi que je dis, viva la vida, vive la vie, réjouissons-nous, nous dit le texte, parce que c'est un don de Dieu. Et d'ailleurs, je pense que, là encore, hein, c'est un don de Dieu, il dit, de faire cela au milieu de son labeur. Dans la Genèse, le travail était conçu comment ? Comme une malédiction, et Dieu, dans sa grâce, permet que le travail devienne, disons, une bénédiction et que nous trouvions du plaisir dans ce labeur. Il faut donc prendre du temps pour se réjouir ensemble, en famille, en amis, autour d'un bon repas. Et tout cela, pour moi, et selon l'Ecclésiaste, est spirituel. Prendre du plaisir dans ce que nous faisons au quotidien. C'est une forme de spiritualité. Alors, il ne faudrait pas passer son temps autour de repas, à boire des verres et faire que ça. Non, là, ça serait plus spirituel. Attention, je mesure mon propos. Mais cela fait aussi partie d'un type de spiritualité. Nous ne sommes pas appelés à vivre en ascète, reculés loin du monde, etc., je le crois, mais à vivre dans ce monde et à trouver du plaisir dans tout ce que Dieu nous donne. Dans tout ce qu'il nous donne, et là encore, avec une question de mesure, et de discernement. Il ne laisse pas les choses comme ça, comme un plat tout fait. Hein. Nous avons à faire marcher notre cerveau, l'Esprit de Dieu en nous, etc., pour discerner ce qui est bon pour nous. Et donc aussi trouver un certain plaisir dans les activités, dans les loisirs. Alors dans notre quotidien, et dans des travails de plus en plus exigeants, qui nous demandent de plus en plus de temps, Moi, cette semaine, ça m'a fait beaucoup de bien. De me rendre compte que le Seigneur veut pour moi que je puisse prendre du temps pour profiter des choses qui sont autour de moi, pas simplement travailler, être dans un activisme effréné, mais prendre du temps, saisir la vie telle qu'elle est, pour nous. Voilà, le texte se termine en nous rappelant que ce que Dieu fait dure, lui, par contre. Tout ce qu'il fait, contrairement à nous, cela durera toujours. Cela nous renvoie ainsi à notre petitesse. Nous sommes un petit point dans cette histoire, mais Dieu a la vue générale. Et tout ça, le texte dit, afin qu'on le craigne. Ce que Dieu fait durera toujours, et ce, afin qu'on le craigne. Donc il dit, craignons Dieu. Arrêtons de craindre les circonstances, puisque lui, il a la vue générale. Il a le grand tableau de l'humanité, il a le grand tableau de l'histoire. Arrêtons de craindre les circonstances, mais craignons plutôt Dieu qui en est le maître. Comme le disait un théologien, C.S. Lewis, si le premier effet de la souffrance est d'ébranler l'illusion que tout va bien, le second est d'ébranler l'illusion que tout ce que nous avons, bon ou mauvais, nous appartient et nous suffit. Je conclus donc ce passage avec vous pour dire quoi ? Qu'au final, l'Ecclésiaste relativise l'importance et la valeur de nos actes dans ce monde. Ils ne sont pas nuls, mais il les relativise. Parce que Dieu seul fait toute chose belle en son temps. Nous n'en sommes pas capables, nous vivons dans un monde où le péché est encore là. Nous ne sommes pas dans la Jérusalem, dans la Nouvelle Jérusalem. Le péché et le bien habitent côte à côte. Cependant, Dieu nous délivre du poids de la responsabilité de changer ce monde. C'est lui qui a la grande image, c'est lui qui a l'image de l'histoire. Il nous fait collaborateurs, il nous fait partenaires d'alliance, mais nous n'avons pas le poids de la responsabilité de ce monde. Il nous rappelle que notre vie doit se placer entre l'ascétisme et l'activisme. C'est au milieu. C'est à nous de discerner, selon l'Esprit de Dieu, ce qui est bon pour nous et comment régler le tempo de notre vie. Entre nos travails, nos occupations, nos activités, nos plaisirs, nos loisirs. Il nous demande de nous arrêter, parfois pour jouir des bonnes choses qu'il nous accorde. Et je pense que nous en avons tous besoin de cela. On est dans une société où ça ne sera jamais assez pour votre patron, ça ne sera jamais assez pour mon directeur de thèse, ça ne sera jamais assez. Et à un moment donné, il faut accepter de dire non et d'être pas assez à la hauteur. Parce que la vie, ce n'est pas simplement le travail, mais nous avons le plan de Dieu, que Dieu a pour toute l'humanité, et nous pouvons trouver du plaisir, nous, parce que nous connaissons Dieu, nous connaissons notre Créateur, dans les choses qu'il nous met à disposition. Il s'agit de donner la juste place à chaque chose. Le travail, les loisirs et les plaisirs. Ainsi, vive la vie avec ses joies, ses peines, ses tristesses, sa danse, ses moments pour planter, ses moments pour arracher, ses moments pour récolter. Amen.